Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Solène Robin.
Bonjour, comment pourrions-nous vivre aujourd'hui dans notre société moderne sans l'écriture, mais surtout la lecture ? La tradition orale permet d'accéder à une certaine forme de connaissance, mais le savoir, les travaux de recherche ne sont transmis à travers les siècles que par l'écriture. Apprendre à lire est donc une nécessité. C'est la première chose enseignée à l'enfant qui entre à l'école avant même les mathématiques. À l'entrée en sixième, beaucoup d'enfants ne savent pas lire correctement, 10% des adultes ne maîtriseront même jamais totalement la lecture, et les gouvernements introduisent constamment des réformes toujours nouvelles. Méthode globale ou non, finalement, la méthode parfaite n'existe toujours pas. Peut-être que ces réformateurs n'ont finalement pas pris les choses dans le bon ordre. La lecture, avant tout, c'est un processus cérébral qui ressort tout autant de la biologie et des neurosciences que des sciences sociales. Quelques éléments préliminaires pour commencer. La lecture n'a évidemment pas toujours existé dans l'évolution. Elle n'est pas arrivée comme par magie chez l'Homo sapiens. Sa naissance est assez récente en fait. Elle est née chez les Babyloniens il y a 5400 ans seulement, avec les premiers hiéroglyphes. L'alphabet phonétique est lui apparu il y a 3800 ans. La lecture a été créée de toutes pièces par l'homme. Pourquoi ? Comment ? Comment les schémas cérébraux ont-ils permis son apparition ? Cicéron disait « Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu'il vous faut ». Les livres seraient donc la base nécessaire à l'homme, soit, mais comment mécaniquement apprend-on à lire ? C'est une véritable activité neuronale dont on commence à peine à découvrir les mécanismes. Mécanismes que nous allons décrypter aujourd'hui en compagnie de Stanislas Dehaene. Après avoir étudié la bosse des maths, récompensé par le prix Jean Rostand, il publie aujourd'hui l'objet de ses recherches sur les neurones de la lecture, titre de son ouvrage. Monsieur Dehaene, bonjour.
Bonjour.
Merci de votre présence parmi nous, malgré l'emploi du temps que vous avez qui défie toute concurrence. Alors, nous comptons sur vous pour nous dévoiler quelques-uns des secrets de la lecture. Dans sa préface, Jean-Pierre Changeux souligne l'importance de vos travaux. Il dit « L'ouvrage de Stanislas Dehaene est important d'abord par la présentation qu'il fait de ses propres travaux sur les neurosciences de la lecture, qui commencent avec la reconnaissance des lettres par la rétine et l'extraction des composants de base des mots comme les syllabes. Il nous fait participer à la passionnante découverte des circuits mobilisés par la lecture. » Quelques mots élogieux d'un académicien des sciences éminent, mais votre parcours ne permettait pas d'en douter. Vous avez vous-même été élu à l'Académie des sciences fin 2005, à seulement 40 ans. Vous êtes donc a priori le plus jeune académicien des sciences en fonction. Vous êtes docteur en psychologie cognitive, professeur au Collège de France à la chaire de psychologie cognitive expérimentale et vous dirigez également l'unité mixte INSERM-CEA de neuro-imagerie cognitive à Orsay, qui est d'ailleurs un établissement de recherche mondialement réputé. Alors à ce tarif-là, d'ici les 20 prochaines années, vous aurez reçu le prix Nobel.
Mais je ne sais pas, en tout cas mon laboratoire s'est déplacé récemment et c'est vrai que nous disposons d'excellents moyens de recherche sur le cerveau, maintenant dans un nouveau centre qui s'appelle Neurospin, qui est juste à côté d'Orsay, à Saclay, et dans lequel le CEA investit de façon importante pour créer de nouvelles machines pour mieux voir le cerveau. C'est un enjeu fondamental d'arriver à comprendre notre cerveau. C'est peut-être le plus grand enjeu scientifique qui reste, je dirais, accessible au grand public. Nous avons tous un cerveau, nous devons tous apprendre à lire, nous devons tous apprendre à faire des mathématiques, et nous en sommes encore au balbutiement dans notre compréhension de cet organe très complexe.
Alors, après la pause des maths, vous êtes passé du côté de la lecture. Pourquoi avoir axé vos recherches dans ce sens ? Pourquoi avoir commencé par les mathématiques avant la lecture ?
Bon, d'abord, je n'ai pas abandonné le sujet des mathématiques, mais vous voyez, dans le cas des mathématiques, ce que nous avons montré, c'est qu'il y a des représentations non verbales qui existent d'ailleurs chez l'animal, qui existent chez le tout petit enfant avant même d'apprendre un langage, qui existent aussi dans certaines tribus amazoniennes en l'absence d'un langage sophistiqué. Donc, la conception des nombres existe sans langage, mais il était intéressant de se poser la question, qu'est-ce que les symboles écrits ou oraux apportent aux mathématiques ? Et c'est comme ça que, tout doucement, avec mon collègue Laurent Cohen, qui est neurologue à la Salpêtrière, on s'est intéressé à la représentation des symboles, écrits en particulier, et on s'est rendu compte que ça crée des bouleversements tout à fait massifs dans la cognition numérique, mais aussi dans la cognition au sens le plus large du terme. L'acquisition de la lecture est vraiment une sorte de révolution pour le cerveau.
Parce que c'est vrai que spontanément, on aurait tendance à se dire que pour apprendre les mathématiques, il faut d'abord savoir lire pour décrypter les signes. Et à l'école, d'ailleurs, on enseigne d'abord la lecture avant les mathématiques.
Oui, mais dans le cas des mathématiques, en fait, l'enfant arrive à l'école avec un bagage de compétences qui n'est vraiment pas négligeable, qui est parfois négligé par les enseignants. Mais l'enfant a des intuitions mathématiques. Et ces intuitions se développent extrêmement précocement. C'était tout l'objet de ma recherche sur la base des maths.
Alors, intuition qu'il n'a vraisemblablement pas pour la lecture, puisque vous nous l'expliquerez, le cerveau n'était pas a priori conçu pour la lecture. Alors, on ne pourra pas aborder ici tous les aspects passionnants de votre ouvrage, mais dans un premier temps, j'aimerais que vous nous parliez des mécanismes anatomiques qui permettent de lire.
Alors, chez un adulte qui a appris à lire, on peut suivre littéralement, à la fois dans le temps et dans l'espace du cerveau, l'enclenchement de différents niveaux de représentation du mot écrit. Tout commence évidemment dans la rétine, lorsque notre œil se pose sur la page de texte. Et dans le livre « Les neurones de la lecture », l'une des premières images, c'est une page de Proust qui est filtrée, comme le fait notre rétine.
Oui, vous parlez de la méthode de McConkie et Renard.
Oui, alors, ce qui se passe, c'est que notre rétine dispose d'une haute résolution nécessaire à la lecture uniquement en son centre. Et avec un gradient.
C'est
ce qu'on appelle la fovéa, le centre de la rétine. Et plus on s'en éloigne, plus la résolution est dégradée. Donc, ce qu'on voit sur cette page filtrée, c'est que finalement, notre œil n'est pas capable de voir la totalité de la page. Et c'est pour ça que notre regard va s'orienter successivement, ligne par ligne, et pratiquement mot après mot, en tout cas pour les mots à contenu.
Oui, vous expliquez que la lecture est finalement très saccadée, qu'il y a les mouvements de saccade très fréquents de l'œil et que chaque saccade ne permet que de traiter 7 à 9 signes, c'est ça ?
Voilà, quelques lettres. Et ça, effectivement, c'est une méthode tout à fait remarquable développée par McConkie et Rainer, il y a déjà quelques dizaines d'années, qui a permis de le montrer. C'est-à-dire qu'on peut asservir la présentation de la page sur un écran d'ordinateur au mouvement de l'œil. Et à ce moment-là, on peut s'arranger, par exemple, pour que ce qui est juste sous la fovéa soit correct. On voit effectivement,
dans le champ visuel,
par exemple, quelques lettres à gauche, quelques lettres à droite du point de fixation. Et puis tout le reste de la page, on va le remplacer par des X. Et l'immense surprise, ça ne ralentit pas la lecture.
C'était un test qui est effectué de manière informatique face à un écran.
Donc imaginez la situation, juste à l'endroit où la personne regarde, vous mettez les bonnes lettres appropriées à la page que la personne est en train de lire. Partout ailleurs, il n'y a que des X. Et puis évidemment, quand la personne bouge son regard, l'ordinateur recalcule la page et à l'endroit où l'œil va atterrir, il affiche les bonnes lettres. Par contre, il remplace les précédentes par des X. Et la grande surprise, c'est qu'on peut lire dans des conditions presque normales, quasi normales, avec la même rapidité, et sans même s'apercevoir que la page a été modifiée. Donc ça signifie que notre cerveau extrait en fait finalement assez peu d'informations de façon sérielle, et à un instant donné, il extrait effectivement une dizaine ou une quinzaine de lettres qui constituent essentiellement un mot et un petit peu d'informations sur ses voisins. Alors voilà, donc tout commence avec un mot. Et il faut bien dire que la psychologie de la lecture n'est pas si avancée pour que nous comprenions vraiment ce qui se passe au niveau des phrases. Donc, on est obligé, et mon livre se concentre très largement sur ce qui se passe pour un mot. Alors, qu'est-ce qui se passe pour un mot ? Il va s'afficher sur la rétine, et là, immédiatement, il faut comprendre le problème auquel est confronté notre cerveau. Le mot est éclaté, un petit peu comme le ferait un scanner, d'ailleurs.
Il est éclaté par les neurones de la rétine.
Voilà, les neurones de la rétine, les photorécepteurs de la rétine vont chacun être sensibles à la présence de lumière en un point donné. Alors, ça va être plusieurs dizaines de milliers de photorécepteurs qui vont ensemble éclater ce mot. Donc, le mot n'est plus une entité unique au niveau de la rétine, il est codé par plusieurs dizaines de milliers de photorécepteurs et tout le travail du reste du cerveau va être de reconstituer ce puzzle et d'arriver à reconnaître de quel mot il s'agissait, avec un problème supplémentaire qui est très difficile, c'est que le mot peut varier dans sa distance, dans sa position exacte sur la rétine, et même dans sa police, il peut être en majuscule, il peut être en minuscule. Donc, se pose un problème d'invariance. Il faut arriver à reconnaître qu'il s'agit d'un mot donné de façon invariante pour toutes ces variantes possibles de sa présentation sur la rétine.
Et c'est ce que vous expliquez qui est assez étonnant. Somme toute, vous dites que finalement, que la police soit grande ou petite, ça ne changera rien au niveau de la lecture et de la capacité de lecture.
En tout cas, nous n'avons pas conscience que cela pose un problème pour le cerveau. Nous posons notre regard et nous comprenons immédiatement les mots qui sont sur la page. Mais en réalité, lorsque le mot est petit et lorsque le mot est grand, ce ne sont pas du tout les mêmes photorécepteurs qui sont engagés au départ, ce ne sont pas donc les mêmes régions du cortex visuel primaire qui sont sollicitées. Et pourtant, après quelques synapses, notre cerveau réussit à atteindre une représentation invariante.
Vous parlez des empans également. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est?
Oui, on s'aperçoit que dans cette extraction d'informations sur la page, le cerveau effectivement utilise une fenêtre qui n'est pas symétrique. Et nous qui lisons de la gauche vers la droite, notre cerveau extrait quelques lettres sur la gauche, mais beaucoup plus de lettres sur la droite du point de fixation, de l'endroit où nous regardons.
Alors, à la différence, j'imagine, des gens dans les pays arabes qui lisent de la droite vers la gauche.
Exactement.
Et qui auront tendance à davantage voir ce qui se situe sur la gauche de la page.
Exactement. Et là, on s'aperçoit que l'empan est orienté dans l'autre sens. Donc, notre cerveau cherche à extraire de l'information en anticipant sur la suite de la ligne.
Et vous écrivez également qu'il suffit de 50 millisecondes de présentation pour que la lecture progresse quasiment normalement. Vous dites, ces opérations s'enchaînent dans le temps pendant au moins une demi-seconde après la présentation d'un mot. Oui, sauf que tout le monde ne va pas lire à la même vitesse, non?
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une espèce de cascade dans le cerveau. Le mot peut être présenté extrêmement brièvement en entrée, mais il va déclencher toute une série d'étapes successives qui commencent tout à fait à l'arrière de la tête, dans le pôle occipital, c'est l'aire visuelle primaire, et ensuite ils vont progresser vers l'avant
du
cerveau.
On en parlera après, mais dans l'hémisphère gauche du cerveau.
Alors, justement, au départ, si on fixe au centre d'un mot, la moitié des lettres vont se projeter dans l'hémisphère droit et l'autre moitié vont se projeter dans l'hémisphère gauche. Et c'est un problème pour le cerveau. Le mot est littéralement éclaté.
D'accord, il me semblait pourtant que l'écriture et la lecture se situent dans l'hémisphère gauche.
Justement, alors l'hémisphère gauche, qui est plus spécialisé pour le traitement du langage, doit rassembler ces informations. Et une partie des informations viennent de l'hémisphère droit et doivent donc traverser ce qu'on appelle le corps calleux, c'est-à-dire le faisceau de fibres qui relie les deux hémisphères. Et un phénomène très remarquable survient chez des patients qui ont des lésions du corps calleux. On peut observer à ce moment-là ce qu'on appelle une hémialexie. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui parviennent encore à lire des mots qui atterrissent dans l'hémisphère gauche, donc qui sont présentés dans la partie droite du champ visuel. Mais s'ils fixent à droite d'un mot, et donc le mot est dans le champ gauche, il atterrit dans l'hémisphère droit, ils ne parviennent plus à le lire. Et donc vous avez des patients qui ne savent lire que les mots situés sur la droite. Et ça s'explique donc tout à fait bien par
ce
faisceau de connexion qui doit rassembler l'information sur les mots.
Ça ne les empêche pas de lire. Mais c'est
non,
plus difficile.
Parce qu'ils adaptent leur point de fixation. Ouais. Mais évidemment, ça les empêche de lire une page qui serait flashée, dans laquelle certains mots seraient à gauche, d'autres seraient à droite.
Dans le début de votre ouvrage, vous parlez également des lettres qu'on dit moulées. Vous citez un ouvrage de Molière. Est-ce que ces lettres moulées qui sont les lettres donc de caractère d'imprimerie, elles sont plus faciles, moins faciles à lire que les lettres manuscrites, ou pour le cerveau, c'est pareil?
Vous savez, il y a étonnamment peu de recherches et avec Laurent Cohen, nous sommes en train de faire parmi les premières études d'imagerie cérébrale de l'écriture manuscrite, parce que pratiquement toutes les recherches portent sur l'écriture de caractère imprimé. Mais il semble, d'après ces premières recherches, que notre cerveau, là encore, parvient à normaliser la forme écrite ou imprimée du mot. Et donc très vite, vers à peu près 170 millisecondes après l'apparition du mot sur la rétine, notre cerveau a déjà atteint des niveaux de représentation qui sont invariants et qui sont sollicités de la même manière par des mots imprimés et par des mots manuscrits. Et ce qui est peut-être le plus remarquable, c'est que toute cette cascade d'opérations qui dépasse dans une certaine mesure ce que peut faire un ordinateur, même à l'heure actuelle, se produit de façon non consciente. C'est-à-dire que le mot peut être flashé dans une durée tellement brève que la personne n'a pas conscience même d'avoir vu un mot. Et pourtant, l'imagerie cérébrale nous montre, et les méthodes comportementales nous montrent également, que toute cette cascade a eu lieu dans le cerveau du sujet.
Mais il y a une rémanence dans le cerveau quand on voit un mot sans en prendre réellement conscience sur l'instant, est-ce qu'il y a une rémanence qui dure un certain temps?
Oui, et il y a surtout des processeurs cérébraux qui sont très spécialisés, qui sont capables de prendre un tout petit peu de données dans le monde extérieur et de se déclencher, avec ce minimum de données, pour donc enclencher un processus de reconnaissance visuelle.
D'accord. Alors, on va marquer une première courte pause et puis on abordera ensuite la question centrale, c'est-à-dire la question neuronale au sens propre.
Jean d'Ormesson sur Canal Académie, immortel depuis le 18 octobre 1973, date de son élection à l'Académie française, Jean d'O, comme l'appellent familièrement ses lecteurs, n'a pas attendu cette date pour devenir un écrivain célèbre. Retrouvez Jean d'Ormesson sur Canal Académie avec Elisabeth Antebi dans notre émission En habit vert.
On reprend notre émission avec Stanislas Dehaene sur son nouvel ouvrage « Les neurones de la lecture ». Alors, on va aborder maintenant la question neuronale qui a valu beaucoup de polémiques au cours des siècles. Pourquoi l'homme, seul parmi les primates et dont le cerveau diffère si peu des autres primates et singes, est-il finalement le seul à avoir acquis l'écriture et la lecture ?
Alors, ce que je suggère dans le livre, c'est que notre cerveau parvient à se recycler pour la lecture. C'est-à-dire que, évidemment, nous n'avons jamais évolué pour la lecture. Au cours de notre évolution, nous n'avons pas rencontré les problèmes spécifiques qui se posent dans le domaine de la lecture. Mais notre cerveau dispose de suffisamment de plasticité pour s'adapter à ce nouveau problème. Et il dispose de circuits anciens dont la fonction est suffisamment proche pour finalement pouvoir franchir ce pas et se destiner à la lecture. En l'occurrence, ce sont des circuits visuels, mais qui sont capables d'être mis en connexion avec les aires du langage. Donc c'est l'interconnexion vision-langage, le fait de véhiculer la parole par l'écrit, qui est nouveau dans l'évolution, qui est la grande invention de l'écriture.
Et justement, vous revenez et vous remettez totalement en cause les opinions antérieure, qui était développée, vous parlez de Berkeley, Locke et Hume, qui parlait de plasticité généralisée et de relativisme culturel. C'est-à-dire qu'il comparait le cerveau, Aristote l'a fait également, à une ardoise vierge, où viendrait s'imprimer, vous écrivez, à travers le filtre des cinq sens, les données de l'environnement naturel, mais aussi culturel. On peut rajouter également Darwin, qui lui aurait dit, par rapport au déterminisme, que si l'homme apprenait finalement à lire et à écrire, alors ce serait parce que c'est une chose nécessaire à sa survie. Donc vous remettez en cause un petit peu
toutes ces... Je ne sais pas s'il faut tout mélanger, mais certainement, il y a une idée qui est très courante dans le grand public, qui est que l'éducation imprime des connaissances dans le cerveau. Et j'essaie d'expliquer que ça ne se passe pas du tout comme ça, que le cerveau est extrêmement contraint, que les circuits sont très organisés et que les apprentissages sont en quelque sorte canalisés par la structure existante du cerveau de l'enfant. Et ça vaut dans le domaine des mathématiques comme dans le domaine de la lecture. De ce point de vue-là, il y a vraiment une certaine ressemblance. Dans les deux cas, l'enfant arrive avec des compétences, mais ces compétences sont déplacées par l'éducation. Et donc, dans le domaine de la lecture, si nous n'avions pas évolué au cours de millions d'années d'évolution des primates, des circuits spécialisés pour la reconnaissance invariante des objets du monde extérieur, nous ne serions pas capables de lire. Lorsque nous lisons, nous réutilisons la compétence du système visuel des primates pour la reconnaissance invariante des objets. Et ce qu'on peut montrer par imagerie cérébrale, c'est que la lecture fait appel à un sous-ensemble de ces circuits, une région très particulière qui est la même chez tous. Vous voyez, si c'était une ardoise vierge dans laquelle on imprimait des connaissances, on ne s'attendrait pas à ce que ce soit toujours exactement la même région qui soit impliquée chez tous les individus. Or, la grande découverte de la science de la lecture, c'est que l'on lise l'alphabet, que l'on lise les caractères chinois, que l'on lise en japonais, que l'on lise en hébreu de droite à gauche, c'est toujours la même région de l'hémisphère gauche qui intervient pour la reconnaissance visuelle des mots.
C'est-à-dire que l'apprentissage de la lecture, finalement, n'est pas quelque chose de culturel, c'est neuronal, c'est une évolution nécessaire.
C'est à la fois culturel et neuronal, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est une magnifique invention culturelle, elle n'existait pas il y a 5000 ans, n'existait pas jusqu'à très récemment pour l'immense majorité de l'humanité. C'est uniquement très récemment que, finalement, la majorité de l'humanité apprend à lire. Et pourtant, elle s'inscrit dans des circuits neuronaux qui, eux, sont anciens. Et c'est ce compromis qui contraint la lecture. Alors, ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que la forme même des écritures est contrainte par notre cerveau, y compris la forme des lettres. C'est une découverte assez fascinante d'un de nos collègues en Californie, Mark Changizi, de montrer que dans toutes les écritures du monde, les formes qui ont été choisies pour les caractères ne sont pas arbitraires, mais certaines formes sont plus fréquentes que d'autres. Il y a une distribution des fréquences des traits. Vous voyez, par exemple, l'intersection en T ou l'intersection en L sont plus fréquentes que d'autres types d'intersections en Y ou en delta, par exemple. Et il a montré que cette fréquence dans le monde culturel est la même que la fréquence de ces intersections de contours dans le monde naturel. Si vous regardez une image de forêt, par exemple, ou une image, disons, du monde extérieur, d'un paysage ou d'animaux, vous allez voir que les contours des objets forment des T, forment des L, évidemment qui peuvent être orientés dans toutes les orientations possibles, mais qui ont la même fréquence que dans les pages d'écriture. Alors, ce que ça veut dire, c'est que notre système visuel, il a évolué et il dispose de détecteurs neuronaux de ces formes élémentaires de T et de L parce que c'est utile pour la reconnaissance des objets. Et nous, par la culture, nous réutilisons ce système et nous avons découvert, je dis nous, des générations de scribes qui ont inventé l'écriture et qui ont fait évoluer l'écriture ont découvert empiriquement et par sélection successive que ces formes étaient utiles à l'écriture, qu'elle permettait d'être facilement apprise par l'enfant et de véhiculer du langage.
Alors ça veut dire que ce sont nos gènes qui nous permettent de lire, et si la lecture n'est pas inscrite dans les gènes, nous avons adapté nos capacités cérébrales pour pouvoir atteindre la lecture.
Et oui, il y a une espèce de croisement de contraintes qui explique aussi que chez certains enfants, qu'on appelle dyslexiques, la lecture ne se fait pas aussi facilement qu'elle le devrait. On sait maintenant que la dyslexie correspond à un réel problème au niveau cérébral et souvent au niveau génétique. Il y a maintenant 4 gènes candidats qui ont été identifiés comme des gènes prédisposants à la dyslexie. Et on comprend que ces gènes modifient la mise en place initiale de ces circuits qui sont les seuls, finalement, qui sont capables de prendre en compte la lecture. La lecture est contrainte et, bon, le cerveau de l'enfant
est plastique. Elle est contrainte par notre patrimoine génétique.
Elle est contrainte par notre patrimoine génétique, elle est contrainte par les circuits qui sont mis en place précocement dans le cerveau du jeune enfant. On est en train de découvrir que le cerveau du jeune enfant est beaucoup plus structuré qu'on aurait pu le penser. Les circuits qui s'intéressent au langage, par exemple, dans les premiers mois de vie, sont les mêmes chez l'enfant de 2 ou 3 mois et chez l'adulte. Ce sont déjà des circuits qui canalisent l'information vers l'hémisphère gauche et qui sont très structurés dans le lobe temporal. Voyez. Donc ces circuits sont en place.
Le langage, enfin l'écriture, la lecture se situent dans le lobe temporal.
Oui, alors la lecture, donc on a parlé beaucoup de ces représentations visuelles qui impliquent les régions occipito-temporales, donc on passe du cortex occipital qui comprend l'aire visuelle
alors,
primaire.
Juste techniquement, pour simplifier, ça se situe où dans le cerveau?
Alors, très à l'arrière de la tête, tout à fait dans
à
le...
À gauche,
dans
à droite
tout à fait à l'arrière, vous avez le cortex visuel primaire, des deux côtés, dans les deux hémisphères. De là, l'information va être canalisée vers le bas du lobe temporal, donc en arrière de l'oreille et très spécifiquement dans l'hémisphère gauche. Et de là, à partir d'une représentation orthographique du mot écrit, on va avoir une explosion d'activité qui se produit pour associer cette forme écrite à un sens et à une prononciation. Et on comprend maintenant qu'il y a plusieurs circuits dans le cerveau, parallèles, certains qui s'intéressent au sens et d'autres qui s'intéressent à la prononciation des mots. Alors, ces circuits fonctionnent simultanément, mais avec des vitesses plus ou moins grandes, suivant les mots qui sont présentés. Par exemple, un mot ambigu, ou un mot dont la prononciation est irrégulière, comme « femme », par exemple, eh bien, ne vont pas être traités tout à fait de la même manière qu'un mot extrêmement régulier, comme, je ne sais pas, un cabinet, par exemple. Et le mot « femme » présente une difficulté parce que le « e » de « femme » est totalement inhabituel, dans la mesure où il se prononce « a ». Alors, ça crée une difficulté pour notre cerveau qui doit d'abord accéder à un lexique mental qui reconnaît cette forme particulière et à partir de là, on peut récupérer sa prononciation.
Il y a d'abord une reconnaissance lexicale ou phonologique, une reconnaissance de sens ou de son.
Précisément, ça dépend des mots. Donc, le mot femme va avoir un biais pour un passage par le lexique avant d'accéder à la prononciation. D'autres mots, je donne l'exemple de cabinet, je ne sais pas si c'est le meilleur exemple, mais c'est un mot très simple, C-A-K, c'est quelque chose que votre cerveau peut calculer sur une base strictement d'une correspondance entre les lettres et les sons, et là c'est une autre voie plus directe qui va accéder à sa prononciation.
Mais la reconnaissance phonologique et lexicale se font de manière parallèle et relativement simultanée.
Alors les deux voies fonctionnent en parallèle, et évidemment, suivant les mots, l'une va gagner, l'autre va gagner. Il y a une espèce de compétition.
Il peut y avoir un blocage si on ne
voix.
Connaît pas, par exemple, la prononciation d'un terme.
Alors, si c'est un mot complètement nouveau, un néologisme que vous lisez pour la première fois, certainement, il n'y a que la voix phonologique qui peut travailler. Ou alors, votre voix lexicale va essayer de faire des analogies avec des mots qui sont déjà connus. Et les deux mécanismes existent dans le cerveau.
Alors, je fais juste un petit aparté sur une question que je voulais quand même vous poser, même si elle est quelque peu naïve. Le singe lui-même possède un génome assez très proche de celui de l'homme. Alors, pourquoi techniquement est-ce que le singe ne pourrait pas lire et écrire ?
Alors, ça, c'est une vraie bonne question. Le cerveau de l'homme est quand même assez différent de celui de nos cousins les primates, mais on ne sait pas très bien ce qui fait que l'un accède à une expansion culturelle extraordinaire et l'autre non. Ce n'est pas une question tellement de capacité d'apprentissage, puisqu'en laboratoire, plusieurs expériences existent qui ont appris des symboles aux primates. On peut apprendre à un singe macaque à reconnaître les chiffres arabes, par exemple, et des expériences sont en cours pour leur apprendre à lire, entre guillemets, dans la mesure où on leur apprend des chaînes de caractères, disons.
C'est lié à notre environnement culturel, aux contraintes de notre existence ?
Bien sûr, mais l'environnement culturel, c'est nous qui le créons. Bien entendu. Donc, ce qu'il faut expliquer, c'est pourquoi l'espèce humaine a cette espèce de créativité culturelle qui est unique dans le monde animal. Et on ne peut faire que quelques spéculations dans ce domaine. La spéculation que nous avons menée avec Jean-Pierre Changeux, c'est de dire que le cortex frontal joue un rôle essentiel. Le cortex frontal, c'est donc à l'avant du cerveau, extraordinairement développé dans l'espèce humaine, avec un faisceau de connexion qui relie ces régions à pratiquement l'ensemble du reste du cerveau. Donc c'est un organe à l'intérieur du cerveau qui est capable de rassembler l'information et aussi, dans le sens inverse, de projeter des faisceaux attentionnels pour aller chercher de l'information dans les autres circuits cérébraux. Alors le pari que nous faisons, c'est que ce système nous permet de recycler pour des activités culturelles, des processeurs anciens du cerveau de tous les primates. En quelque sorte, ils nous permettent de jouer avec nos modules cérébraux. Et quelque part, l'invention de la lecture, c'est ça. C'est l'idée de jouer avec des signes écrits, donc jouer avec son système visuel, en se disant « mais pourquoi je ne ferais pas du langage avec ça ?» Et cette idée, qui est extraordinaire, c'est vraiment une très grande idée, peut-être la plus grande dans l'évolution culturelle de l'espèce humaine, c'est avant tout une nouvelle manière de jouer avec notre cerveau.
Et alors, ces neurones de la lecture, est-ce qu'ils sont... alors, on les localise, mais est-ce que de manière très précise, on sait où ils se trouvent dans le cerveau, est-ce qu'il y a des gènes, des chromosomes qui sont distingués pour la lecture ?
Alors,
ou pas encore ?
Probablement pas de façon extrêmement directe. Par contre, il y a une vraie question intéressante qui est celle du codage neuronal, vous voyez,
d'accord,
de l'information écrite. Jusqu'à présent, par l'imagerie cérébrale chez l'homme, on arrive à voir les grands territoires qui sont activés. Et on peut, par certaines techniques, voir dans quel ordre ils sont activés. Maintenant, pour ce qui est du codage par des neurones uniques, il doit y avoir un code, mais il n'est pas encore bien connu.
Alors, dans le livre, c'est l'objet de recherche.
Oui, exactement. On réfléchit beaucoup à ça et on peut, par des méthodes indirectes, essayer de voir ce code. Même si on ne voit pas les neurones individuels, on peut avoir des informations plus indirectes. Et on pense qu'il existe des neurones individuels chez une personne qui est devenue experte pour la lecture, qui code pour chacune des lettres. Vous avez des neurones dans cette région occipito-temporale qui vous disent à tel endroit de la rétine, il y a la lettre A. Voilà. Alors, on pense aussi qu'il y a d'autres neurones qui codent des combinaisons de lettres. Un neurone va dire, par exemple, il y a un A à la gauche d'un N, et dans la partie gauche du mot. Alors, on pense c'est une immense population de neurones de ce type, chacun avec sa spécificité, qui finit par coder un mot particulier. Et l'idée essentielle, c'est qu'il y a une espèce de pyramide neuronale. Donc, au bas niveau, on l'a dit, dans la rétine, on ne détecte que la présence ou l'absence de lumière ou de contraste. Au niveau suivant, on va détecter la présence de barres orientées dans l'aire visuelle primaire. En combinant plusieurs barres, on va pouvoir dire, tiens, il y a peut-être une forme de T. En combinant plusieurs de ces formes, on va dire, tiens, c'est la lettre T. À une étape suivante, en combinant des détecteurs de majuscules et de minuscules, on va pouvoir dire, c'est la lettre abstraite T, quelle que soit sa forme exacte sur la rétine. À l'étape suivante, on va pouvoir dire, tiens, il y a un T à la gauche d'un U. Et à l'étape suivante, on va dire, tiens, c'est le mot tu. Cette pyramide neuronale est traversée à très grande vitesse et en quelques centaines de millisecondes, en moins de 2 centaines de millisecondes, on a déjà accédé à l'identité du mot.
Mais alors, en termes de lésions, hormis une lésion évidemment de la rétine qui empêcherait la lecture, et hormis des anomalies génétiques de type dyslexie, quel type de lésion peut-il y avoir dans le cerveau qui empêcherait la lecture ?
Ah, il y a des lésions très particulières qui créent un syndrome qu'on appelle le syndrome d'alexie pure, qui est un phénomène extrêmement intéressant, assez rare, dans lequel donc une lésion de la face ventrale du lobe temporal dans l'hémisphère gauche va empêcher sélectivement une personne de lire tout en préservant ses autres fonctions visuelles. Donc vous avez une personne qui se présente à vous en reconnaissant les visages, en reconnaissant les objets, en sachant les nommer, parfois en reconnaissant les chiffres, mais en étant totalement incapable de reconnaître les lettres ou les mots et de lire ne fût-ce qu'un seul mot. On parle d'alexie pure dans la mesure où cette personne n'est pas aveugle mais est aveugle aux mots, et également dans le sens où elle n'est pas déficitaire sur le plan des fonctions linguistiques en général. Elle sait encore parler, elle sait encore comprendre le langage oral et sait encore écrire. Et ça, c'est tout à fait remarquable. Une personne qui va écrire des mots et quelques secondes plus tard ne va pas être capable de les relire.
Donc, est-ce qu'il peut y avoir une compensation ? Est-ce que cette affection, elle est d'origine génétique ?
Non, pas du tout. Ce sont des lésions vasculaires du cerveau. Donc, n'importe lequel d'entre nous, je le crains, peut avoir un accident vasculaire. Et si l'accident vasculaire a lieu dans le territoire cortical qui s'intéresse à l'orthographe des mots, eh bien, peut développer ce syndrome d'alexie pure. Alors, est-ce qu'on peut récupérer ? C'est toujours la question. L'expérience montre que certains de ces patients récupèrent très peu, d'autres récupèrent ce qu'on appelle une lecture lettre à lettre, c'est-à-dire qu'ils parviennent à lire le mot un petit peu comme un enfant le fait, de façon très lente, en partant de la gauche vers la droite et en lisant chacune des lettres. Alors, on a un temps de lecture, à ce moment-là, qui est proportionnel au nombre de lettres que contient le mot. C'est intéressant de voir que ça n'est pas le cas chez un lecteur normal. Chez vous et moi, on lit des mots courts de 3 lettres à la même vitesse que des mots plus longs, jusqu'à 7 ou 8 lettres. Donc, notre cerveau traite l'information en parallèle. Ça n'est plus le cas chez ces patients alexiques et, en général, ils ont énormément de mal à récupérer une lecture rapide.
D'accord. Là, on va aborder un dernier point après une seconde pause, c'est-à-dire l'apprentissage lui-même de la lecture chez l'enfant, sur lequel vous avez des opinions bien arrêtées et d'excellentes propositions à faire. On se retrouve tout de suite. On reprend notre émission consacrée aux neurones de la lecture. Il s'agit désormais d'aborder un point très intéressant. L'enfant apprend à lire vers 5 ans. Progressivement, on lui enseigne les premières lettres à l'école maternelle. Vous l'écrivez, même beaucoup d'enfants qui apprennent à lire ou à écrire le font en miroir de la droite vers la gauche. Alors pourquoi ?
Ah, ça, c'est un phénomène merveilleux, très intrigant, que beaucoup de parents observent, parfois avec angoisse. Un enfant qui va écrire son prénom, par exemple, typiquement, sans se préoccuper aucunement de l'écrire dans le bon sens, de la gauche vers la droite, ou totalement en miroir, de la droite vers la gauche. Et que se passe-t-il ? Eh bien, on pense précisément qu'il s'agit d'une trace de ce fameux recyclage neuronal. Ce qui se passe, c'est que le système nerveux des primates, le système visuel, fait spontanément une généralisation en miroir. Lorsque vous reconnaissez une tasse à café, par exemple, vous êtes capable de la reconnaître que l'anse soit tournée vers la droite ou que l'anse soit tournée vers la gauche. très vite votre système visuel crée une représentation invariante. Voilà.
D'accord.
Invariante pour l'orientation gauche-droite. Pourquoi ? Parce que si vous regardez une photographie du monde naturel, l'orientation droite ou gauche importe peu. Il y a extrêmement peu d'objets dans le monde naturel qui soient asymétriques dans ce sens-là, c'est-à-dire qui nécessitent de distinguer la gauche de la droite. Et notre système visuel qui a évolué pendant des millions d'années dans cet environnement-là a créé des routines de généralisation au miroir. Alors, lorsque l'enfant voit pour la première fois la lettre B en minuscule, par exemple, eh bien, pour lui, il ne voit pas la différence avec la lettre D en minuscule, qui est son image en miroir. Pour lui, il s'agit du même objet. C'est la même chose. Et ça ne lui pose donc aucune difficulté particulière de reconnaître un mot écrit en miroir, ou une lettre écrite en miroir, ou même d'écrire lui-même en miroir. Ce sont des compétences précoces qui montrent bien ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le cerveau est structuré avant l'apprentissage. En l'occurrence, personne n'a jamais appris à l'enfant à écrire en miroir.
Mais alors si on lui écrit des mots en miroir, est-ce qu'il pourra les comprendre de la même manière ?
Alors non, ça se produit à un âge où l'enfant finalement est au tout début de la lecture
et
ne sait pas encore lire. Et très vite, justement, l'apprentissage de la lecture va conduire à une réduction de cette capacité. La lecture en miroir donc ne dure pas et disparaît très vite chez l'enfant.
Mais alors, ce phénomène de l'écriture en miroir, il montre donc que l'apprentissage de la lecture, il n'est pas naturel au départ.
Justement, c'est l'une des rares situations où l'organisation préalable de notre cerveau n'est pas adaptée à la lecture. Et nous devons aller au-delà de ce stade, alors que d'autres aspects de l'organisation de notre système visuel, par exemple l'invariance pour la taille des objets ou pour la position exacte qu'ils occupent sur la rétine, sont très utiles à la lecture. Il n'y a pas une classe dans le monde où on apprend à l'enfant que la forme de la lettre A veut dire A, qu'elle soit à gauche ou à droite du tableau. Et tous les professeurs considèrent, tous les éducateurs considèrent que c'est évident. On n'a pas besoin d'apprendre ça à l'enfant. Mais pour la symétrie en miroir, on a besoin de désapprendre une compétence de notre cerveau qui finalement est délétère pour la lecture. Alors, il y a des enfants pour qui ça pose des difficultés. Et autant il ne faut pas s'inquiéter si un enfant de 6 ans ou de 7 ans fait des erreurs en miroir, autant on peut commencer à s'inquiéter lorsque ces erreurs durent au-delà, par exemple, de l'âge de 10 ans. Parce que, effectivement, pour les enfants dyslexiques, c'est une étape qui est plus difficile à franchir que pour les autres enfants. Et il se peut...
Ça veut dire que ça peut être un symptôme de la dyslexie, enfin, ça peut être une manière de la déceler.
Ça n'est un symptôme de la dyslexie que si ça dure trop longtemps. Et chez de rares enfants, c'est peut-être, mais là c'est une recherche qui est en cours, c'est peut-être la cause de la dyslexie. Il y a des cas tout à fait étonnants, mais très rares, de personnes qui, même à l'âge adulte, ne parviennent toujours pas à voir la différence entre des images en miroir.
Par contre, vous appelez à la prudence dans votre ouvrage, puisque vous dites qu'il ne faut pas systématiquement imaginer que parce qu'un enfant lit en miroir, il a un problème de dyslexie.
Non, exactement, puisque c'est une compétence normale du cerveau, j'insiste là-dessus. C'est d'ailleurs une compétence que nous conservons pour les visages ou pour les objets. Même si vous voyez une personne une seule fois et qu'elle vous montre son profil droit, la deuxième fois, vous la voyez sous son profil gauche, vous la reconnaissez immédiatement. C'est une compétence qui est conservée par notre système visuel, sauf pour la lecture, pour laquelle nous la désapprenons. Alors, je voudrais surtout pas dire que c'est le nœud de la dyslexie, puisqu'on sait maintenant que la plupart des dyslexies proviennent d'une origine phonologique, c'est-à-dire pas du tout à l'intérieur du système visuel, mais plutôt à l'extérieur du système, dans les régions qui codent la parole. Et évidemment, si on n'entend pas bien la différence entre des phonèmes comme « be » et « de », on va avoir du mal à distinguer les lettres « b » et « d », et comme par hasard, ce sont justement des lettres qui sont déjà difficiles à distinguer sur le plan visuel. Donc, c'est un peu malheureux. Notre système culturel a fait des choix implicites qui ne sont pas forcément les meilleurs, qui créent des difficultés pour l'enfant.
Ça veut dire que la dyslexie serait plus liée au langage, finalement, qu'au problème d'écriture et de...
Il y a probablement plusieurs formes de dyslexie, et c'est vraiment une recherche très actuelle. Il semble clair qu'une majorité d'enfants dyslexiques ont des difficultés d'ordre phonologique, donc dans le traitement du langage parlé et la création de ces catégories abstraites que sont le « be » et le « de », mais il semble aussi que d'autres enfants aient des difficultés qui sont d'ordre visuel. Et peut-être que c'est justement dans la rencontre entre le système visuel et le système linguistique que se situe le vrai nœud de la dyslexie. En tout cas, sur le plan de l'imagerie cérébrale, on voit que ce sont dans ces régions qui sont à l'interface entre vision et langage des activations anormales peuvent être observées.
Alors techniquement, tous les enfants n'apprennent pas à lire avec la même facilité. Alors deux questions, comment est-ce que ça se passe au niveau neuronal, l'apprentissage de la lecture, puis comment on peut même apprendre la lecture à l'âge adulte, on l'a oublié, c'est devenu une évidence pour nous, mais comment un enfant, ça paraît quelque part assez magique, comment apprend-il à lire? Comment doit-on lui apprendre à lire également? Ça, je sais que vous avez beaucoup de choses à en dire.
Ce qu'on comprend maintenant, c'est que l'enfant doit commencer par apprendre la voix phonologique, c'est-à-dire celle qui permet de convertir un mot écrit en sonorité qu'il est ensuite capable de reconnaître. Donc, il faut que l'enfant apprenne à décoder chacune des lettres et dans le cas de langues telles que le français, qui ne sont pas complètement transparentes, apprendre également à décoder des groupes de lettres qui peuvent avoir une prononciation particulière. Donc, on sait qu'il faut enseigner de façon très progressive, commençant par les choses simples, des lettres qui se prononcent toujours de la même manière, peut-être le B, par exemple, et ensuite en complexifiant progressivement l'apprentissage. Quand on procède de cette manière, là, on donne une autonomie à l'enfant parce qu'il va être capable très vite de lire des mots nouveaux sans avoir besoin de l'aide de son professeur. Et on enseigne aussi l'ensemble de ces niveaux neuronaux dont on a parlé, le niveau des lettres, le niveau des groupes de lettres et leur correspondance avec les sons. Donc on sait que c'est ça qui est essentiel maintenant. Et on sait, à l'inverse, que le cerveau, à aucun moment, ne fait usage de la forme globale du mot.
C'est ce que j'allais vous dire. Vous détruisez totalement la méthode globale.
Je pense qu'on peut, voir de deux manières différentes que la méthode globale n'est pas appropriée
à notre
cerveau. D'abord, donc, elle ne marche pas. Donc, elle marche moins bien. Il ne faut pas être non plus trop caricatural. Mais elle crée un délai d'apprentissage chez l'enfant. Et toutes les recherches internationales, beaucoup certes menées aux États-Unis, mais quelques-unes menées en France également, montrent que exposer simplement l'enfant à des mots entiers et lui dire « regarde, ça c'est une forme, ça représente le mot lapin », ça ne suffit pas. Il faut attirer l'attention de l'enfant sur chacune des lettres et la correspondance des lettres individuelles avec les sons. Si on ne le fait pas, l'apprentissage est différé, voire ne se produit pas. Par ailleurs, la recherche chez l'adulte montre, comme on l'a dit, que le cerveau ne fonctionne pas comme ça. Il décompose et il recompose le mot. Et des recherches récentes montrent même que si on essaye d'enseigner à des adultes une nouvelle orthographe, une nouvelle langue écrite avec une méthode globale, eh bien, ce sont les mauvais circuits cérébraux qui sont engagés, et en particulier les circuits de l'hémisphère droit. Dans des régions qui sont symétriques de celles qui sont normalement engagées par la lecture. Donc on commence à comprendre que essayer de reconnaître un mot de manière globale, c'est quelque part orienter l'enfant et son cerveau, son attention, dans une direction qui n'est pas la bonne.
Mais alors si on n'utilise pas cette manière globale et si on y va pas à pas, est-ce que c'est un moyen infaillible de parvenir à la lecture pour l'enfant? Est-ce que le fait que tant d'enfants ont du mal à maîtriser la lecture en arrivant au collège vient d'un problème de méthode ou simplement il y a une inégalité génétique en fonction des enfants?
Donc, tous les enfants sont capables d'apprendre à lire. Et ce que me disent mes amis qui travaillent dans le domaine de la rééducation de la dyslexie, c'est que même un enfant très sévèrement dyslexique peut finir par apprendre à lire, pour peu qu'on y mette le prix, c'est-à-dire des heures d'apprentissage intensif, concentré. Et la lecture est clairement une activité experte qui demande du temps pour se routiniser. Donc, au départ, évidemment, ça demande un effort. C'est une activité difficile pour l'enfant. Effectivement, on a vraiment oublié à quel point c'était difficile au départ. Mais ça va se routiniser avec l'exercice. Et il faut donc qu'on invente des méthodes pédagogiques qui ne s'arrêtent pas simplement au béaba. C'est absurde, cette polémique sur le béaba. Ça n'est que le tout début de l'apprentissage. Dans le cas de la langue française, il faut aller bien au-delà. Il faut apprendre les préfixes, les suffixes, qu'on appelle la morphologie, les racines des mots. Il faut apprendre à l'enfant à décomposer le mot en ses unités caractéristiques. Il faut apprendre les terminaisons grammaticales, qui sont tellement complexes en français, et qui jouent un rôle tellement important.
C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, est plus ou moins difficile en fonction des langues que l'on apprend? Est-ce que, par exemple, il est plus difficile pour un enfant français d'apprendre à lire qu'un enfant anglais?
Le français est plus facile que l'anglais. L'anglais est parmi les langues les plus difficiles
sur
le plan alphabétique, non, parce que l'anglais a ce qu'on appelle une transparence extrêmement faible. Vous avez même des groupes de lettres comme O, U, G, H, par exemple. Vous ne savez toujours pas comment ça va se prononcer en anglais. Ça peut être Raf, ou ça peut être Thou. Alors le français est un petit peu plus facile, mais il reste une langue non transparente par rapport, par exemple, à des langues comme le finlandais ou l'italien. En italien, lorsque vous savez lire chacune des lettres, vous savez lire l'italien. C'est terminé. Et la recherche montre que ce sont des années de différence pour l'enfant. En Italie, au bout de quelques mois, les enfants savent lire et le problème est terminé. La dyslexie existe parce que c'est un problème biologique. Et donc, il y a autant d'enfants italiens qui sont par nature dyslexique, mais elle est beaucoup moins un problème en Italie parce que les enfants finissent quand même par arriver à lire. Quelque part, le choix culturel, historique d'un système orthographique tel que celui du français impose aux enfants quelques années supplémentaires d'apprentissage.
Alors si vous dites que tous les enfants peuvent apprendre à lire, hormis des soucis tels que la dyslexie, ils n'apprennent pas forcément au même rythme, on doit adapter, l'enseignement doit s'adapter à chaque enfant. Pourquoi les enfants...
Effectivement, la question des rythmes.
C'est un rythme, c'est neuronal, c'est simplement le rythme propre à chaque enfant. Comment ça se passe?
Écoutez, on ne sait pas très bien. Ce qu'on sait maintenant, c'est que tout le monde va finir par utiliser le même circuit. La trajectoire développementale qui fait que chez l'adulte, on arrive à ce circuit commun n'est pas parfaitement connue. C'est un sujet de recherche. Mais il n'y a pas vraiment de raison de penser que les enfants ont besoin de stratégies éducatives radicalement différentes. Ils ont sans doute besoin, effectivement, d'un rythme qui leur est propre, simplement en fonction aussi de leur trajectoire et de leur apprentissage passé. Donc tous les enfants vont passer à peu près par les mêmes étapes, et on sait que tous les enfants vont bénéficier d'un apprentissage systématique des correspondances graphèmes-phonèmes, suivi d'un renforcement sur le plan du vocabulaire et de la morphologie des mots.
Alors, vous parlez beaucoup d'une théorie de la lecture, vous prenez même la mise en place d'une science de l'éducation qui serait basée non pas seulement sur les sciences sociales, la psychologie, mais sur une véritable approche par la neuroscience qui permettrait d'adapter à chaque enfant l'apprentissage de la lecture. Est-ce que ce n'est pas un peu utopique? Est-ce que vous avez présenté, par exemple, l'issue de vos travaux de recherche auprès d'instances gouvernementales qui gèrent ces réformes de la lecture?
Écoutez, on en discute, y compris au sein de l'Académie des sciences et, effectivement, dans certains ministères. C'est très difficile, évidemment, d'intervenir. Je crois qu'il faut une compétence supplémentaire qui est celle des enseignants pour trouver comment passer de cette science du laboratoire à une vraie science de l'éducation. Et ce que je souhaite, c'est qu'on puisse renforcer les collaborations.
Quand vous dites science de l'éducation, parce qu'on parle aujourd'hui déjà des sciences de l'éducation, mais on ne prend pas assez en compte les neurosciences.
Non, je crois que ce qu'on a appelé longtemps science de l'éducation, ça n'était pas toujours une approche scientifique très rigoureuse, vous savez. Et même la psychologie doit encore se développer pour atteindre une plus grande rigueur. Mais ce qui est nouveau, c'est la convergence de disciplines types, la capacité d'accéder au cerveau, y compris le cerveau de l'enfant, la psychologie qui reste absolument essentielle pour définir les protocoles de recherche, et le domaine vraiment difficile de l'éducation, comment transposer ces connaissances dans les classes. Alors, ce que je souhaiterais, moi, c'est qu'on voit apparaître des laboratoires, comme ça existe dans certains pays étrangers, des laboratoires du CNRS, par exemple, dans une école, pourquoi pas, avec des enseignants qui sont impliqués dans les recherches, les enfants eux-mêmes qui sont impliqués dans les recherches.
Un peu des enfants cobayes, enfin, le terme n'est pas très positif.
Je n'aime pas le terme de cobayes, parce que ce sont des enfants...
Des écoles
ce qu'il
test,
nous faut
alors.
Réellement, ce sont des parents et des enfants volontaires et des enseignants volontaires qui s'intéressent à la recherche, il y en a beaucoup, et qui contribuent eux-mêmes à la recherche en posant les bonnes questions et en contribuant à ce que les chercheurs posent les bonnes questions.
Alors j'ai vu récemment que le Point publiait un article sur des logiciels qui viendraient soutenir l'apprentissage de lecture. Des logiciels dits ludiques pour compléter à la maison le travail de l'enseignement. Vous en pensez quoi, vous?
J'en pense beaucoup de bien, mais évidemment il faut voir en détail de quel logiciel il s'agit. Il y a un des logiciels que j'avais testé. Premier mot présenté à l'enfant, c'était le mot oignon. est l'un des mots les plus atroces de la langue française sur le plan de son orthographe. Donc c'était ridicule. Mais un logiciel bien fait, fondé sur cette science de la lecture, prenant en compte les difficultés successives que pose une langue particulière comme le français, peut être excellent. Le propre du logiciel, c'est de pouvoir s'adapter à l'enfant les problèmes.
Le logiciel s'adapte de manière limitative, puisqu'il n'est pas comme l'être humain qui va pouvoir enseigner la lecture ou l'écriture en s'adaptant véritablement à chaque cas d'espèce, à chaque enfant.
Écoutez, le logiciel peut s'adapter à chaque enfant. Un de nos collègues, Joe Ziegler de Marseille, est précisément en train de développer une batterie de tests qui, dans chacun des domaines de compétences de la lecture, place l'enfant sur une échelle. Donc on peut savoir si au niveau orthographique, au niveau phonologique, au niveau lexical, quel est son niveau, quel est son degré de difficulté. Et ensuite, sur cette base-là, proposer un logiciel de rééducation qui va présenter exactement les problèmes dont a besoin l'enfant.
Écoutez, c'est un exposé passionnant que vous nous faites. On peut malheureusement pas aborder l'ensemble des points que vous avez développés dans votre ouvrage. Mais je vous remercie beaucoup pour cet éclairage sur la fabuleuse machine cérébrale et les neurones de la lecture. Alors, l'équipe de recherche au CEA à laquelle vous appartenez réalise des études d'envergure, souvent pionnières dans les neurosciences. Donc, on vous attend déjà pour le prochain ouvrage. Il est en cours d'écriture.
Oh non, je termine à peine celui-là. Mais c'est un des grands sujets qu'on pourrait aborder une autre fois, celui de l'accès à la conscience, qui est aussi un grand sujet de recherche du laboratoire.
Oui, il me semble que vous le développez beaucoup. Lionel Nakache a écrit un ouvrage sur les neurosciences et l'inconscient. Freud, Christophe Colomb de l'inconscient.
Oui, c'est le nouvel inconscient de Lionel Nakache qu'on peut tout à fait recommander effectivement pour un accès à cette science du conscient et du non-conscient.
Donc aujourd'hui, c'est l'inconscient qui sollicite, qui accapare vos recherches.
Entre autres.
Entre beaucoup d'autres choses, j'imagine. Alors je rappelle que les neurones de la lecture dont nous venons de parler est publié aux éditions d'Odile Jacob. Et je vous invite tous à vous le procurer. Vous y apprendrez énormément de choses sur la lecture. À bientôt.